L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion. Bonsoir à vous tous, chers, très chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission franco-portugaise Rencontre lusophone proposée par Radio Résonance. Tous les samedis à 7h et le dimanche de 15h à 16h. Le direct ne fonctionne toujours pas et si je ne m'abuse, je pense qu'on a déjà dépassé un mois de panne. Une panne évidemment complètement indépendante de la volonté de Radio Résonance puisque c'est juste notre opérateur, que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité, je crois qu'il ne mérite pas, qui pour l'instant est toujours dans la capacité de nous garantir le direct. On espère évidemment que tout reviendra normal avant l'année prochaine. Mais pour ceux qui peuvent se connecter à Internet, sachez que vous avez la possibilité de nous écouter en streaming et en direct. Et c'est évidemment ce que vous êtes en train de faire puisque vous nous écoutez en ce moment. Bonsoir, Jeff.
Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes.
Nous ne sommes que deux ce soir dans le studio. Au passage, on fait un petit coucou à Manu et à Angélique qui peut-être nous écoutent en direct également. Alors, la chronique culturelle d'aujourd'hui va porter sur une région portugaise. Est-ce que tu connais Jeff Terzoujmontes?
Oui, de nom quand même.
De nom, d'accord. Eh bien, c'est une région, moi, je trouve, très fascinante, qui est située au nord-est du Portugal. Et si j'ai choisi de vous en parler ce soir, c'est parce que là-bas, on a une façon toute particulière de fêter Noël. Un Noël plutôt païen qui est allé puiser ses origines au fin fond de l'Antiquité. Nous allons voir tout ça tout à l'heure et vous verrez, c'est très très curieux. En attendant, nous sommes, comme nous sommes à deux, jour du réveillon de Noël, j'ai eu envie de vous raconter mon coup de cœur car je vais vous parler d'une tradition familiale de Noël. Ce sera mon billet d'humeur.
Résonance 96.9.
Sur Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Noël est la saison des cadeaux, des chants de Noël et de la bonne nourriture. C'est aussi la saison où l'on peut se créer de bons moments qui laisseront place à de merveilleux souvenirs. Mais c'est aussi la saison des traditions familiales qui ont la particularité de susciter un sentiment d'unité et de réconfort dans les familles. Quant à moi, je trouve que c'est le moment idéal pour se souvenir de notre histoire familiale en perpétuant des gestes ou des usages. Et en disant cela, je pense à l'héritage que m'ont laissé mes origines portugaises. La nuit du 24 décembre, sous tous les fuseaux horaires et dans tous les pays du monde où vivent des Portugais, je sais qu'ils sont en train de perpétuer de façon presque inconsciente leur tradition de Noël. Alors bien sûr, le menu de Noël portugais a, comme tous les menus du monde, quelques constantes incontournables, comme par exemple la morue, le poulpe, le pain perdu ou le vermicelle au lait. Dans mon cas, tous les ans, à Noël, c'est le souvenir impérissable de la confection des beignets de Noël qui me revient. Les filhoses, comme les faisait ma grand-mère, puis ma mère quelques années plus tard. Demain, pour la deuxième année, je vais confectionner ces beignets de Noël sous l'œil expert et affectueux de ma mère. Voici donc la recette des filhoses, comme les faisait ma grand-mère. Avant de commencer, je dois néanmoins préciser que la recette n'a pas de mesures exactes puisque tous les ingrédients sont approximatifs ou à vue de nez, comme on dit. Je commencerai donc par casser des œufs dans un énorme récipient à raison d'une demi-douzaine par kilo de farine. J'y ajouterai du sucre et je mélangerai le tout. Ma grand-mère utilisait une cuillère à bois, mais comme les temps ont changé, moi, j'utiliserai plutôt un batteur électrique. Puis je laisserai se dissoudre de la levure de boulanger dans une tasse de tisane au tilleul que je verserai toute tiède ensuite sur les œufs. J'y ajouterai un grand verre de jus d'orange pressé, un verre d'eau de vie, un verre d'huile d'olive et une bonne pincée de sel. Lorsque la pâte commencera à devenir homogène, j'y ajouterai kilo après kilo la farine tamisée. Et c'est précisément là qu'arrivera la phase la plus physique de la préparation, celle où il me faudra mettre les mains dans la pâte. Le but étant de la battre, de la frapper, de la cogner avec force jusqu'à ce que se décolle littéralement du fond du récipient et qu'elle se recouvre de grosses bulles d'air. Ma grand-mère avait un repère infaillible pour un bon pétrissage. Elle disait que lorsqu'on sent la sueur couler le long du dos, c'est signe que la pâte est à point. Et une des phases de la recette que je préfère, c'est le moment où il me faudra saupoudrer de farine le dessus de la pâte. En trempant la cuillère dans la farine, je prendrai soin de rabaisser toute la pâte en raclant les bords du récipient. Et c'est là que le religieux rejoint le profane, puisqu'il me faudra prendre un ton un peu solennel, comme le faisait ma grand-mère, pour réciter une prière tout en traçant des croix sur la pâte à l'aide d'une cuillère. Une prière qui, jusque-là, il n'y a pas très longtemps, était pour moi un mystère, puisque j'ai toujours entendu marmonner. Mais aujourd'hui, ça y est, j'en connais le sens. Il me faudra ensuite recouvrir la pâte d'un linge de coton blanc et l'envelopper d'épaisses couvertures, l'essentiel étant de ne pas la laisser refroidir. Pour terminer, je placerai la pâte devant la cheminée ou près d'un radiateur pour l'aider à monter plus vite. Mais attention au courant d'air, qui pourrait être fatal à la fermentation de la pâte. Après quelques heures, lorsque celle-ci aura doublé ou même triplé de volume, je pourrai faire frire mes beignets. Un vrai tour de main, puisqu'il me faudra, tout en humectant mes mains dans de l'huile, façonner la pâte pour en faire un beau beignet doré et légèrement gonflé sur les bords. Et pour terminer, il s'agira, selon les goûts de chacun, de saupoudrer de sucre en poudre ou de cannelle les beignets encore chauds. Voilà, voilà. Ah, et j'oubliais, chose très importante, il faudra faire suffisamment de beignets pour en manger tout au long des fêtes et en distribuer autour de moi, parce que l'une des valeurs qui accompagne cette tradition des beignets de Noël, c'est qu'il est important d'en offrir à la famille et aux amis. Et vous, avez-vous comme moi pour Noël une tradition spéciale autour de votre histoire familiale que vous partagez en famille ?
Este Natal novo, queremos sentir o teu amor para que os sinos toquem e as estrelas brilhem e todos te louvem, Senhor. Que este Natal novo e o coração sempre maior para que cada um mais feliz torne o mundo um pouco este Natal novo e o coração sempre maior para que cada um mais feliz torne o mundo um pouco
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
C'était la jolie voix de Cooker Rosette qui nous a chanté Feliz Natal. Alors oui, Noël est la saison des cadeaux, des chants de Noël et de la bonne nourriture. Samedi dernier, nous avons reçu ici même Michel Pinglot avec qui nous avons échangé autour des traditions de Noël. Alors ce soir, il ne s'agit pas de refaire le remake de la dernière émission, mais je voudrais revenir aux vraies origines de Noël. Et pour en parler, je vais vous emmener dans une des régions les plus reculées du Portugal, une région authentique où les traditions sont encore préservées. Ce soir, je vous emmène à Trás-os-Montes. Fallait pas mettre la musique de fond ?
Indo e olas ir arriba, delante de mi piara, repicando mi caldeira, remandando mi samarra. Repicando mi caldeira, remandando mi samarra. Vi a somar uma lhoba, ainda mais negra que parda. Agarrou-me uma cordeira, la melhor de la piara. Agarrou-me uma cordeira, la melhor de la piara. Filha de uma ovelha branca, bonita de uma ovelha negra. Filha do melhor marrão que se passeia na serra. Filha do melhor marrão que se passeia na serra. E arriba sete cachorros e abaixo perra gordiana. Se me agarrareis la lhoba, mas la cena la teneis ganha. Mas se não me la agarrais, o la caiata lhe vais. Por Deus, pepido pastor, por Deus e por a tua alma, que te amesto sete perros, e a me voi pelas montanhas. Dirias, meus companheiros, siete perros como estos, no los tem o rei de España.
C'était pour vous mettre dans le bain. Et je vous rappelle que ma chronique d'aujourd'hui porte sur la magnifique région de Trás-os-Montes et de la façon dont on y fête Noël d'une manière encore ancestrale. Nous venons d'écouter une chanson en langue mirandaise. C'était le groupe Galandum Galadain qui nous interprétait la loba, la louve. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais le mirandais est la deuxième langue officielle parlée du Portugal, une langue issue de ces contrées lointaines de Trás-os-Montes où la plupart des habitants sont bilingues puisqu'ils pratiquent à la fois le portugais et le mirandais. Mais avant de vous parler du Noël de Trás-os-Montes, voyons déjà quelle est l'origine de Noël. Noël est aujourd'hui une fête chrétienne, mais en réalité, ça n'a pas toujours été le cas. Mais son origine n'est pas clairement établie, on sait juste que Noël est né dans des temps très anciens. Mais ce dont on est sûr, par contre, c'est qu'elle est le lien en lien avec le solstice d'hiver. Ce solstice d'hiver étant une période charnière pendant laquelle avaient lieu dès l'Antiquité de nombreuses célébrations vouées au culte du dieu romain des semailles et de la fertilité qui n'était autre que Saturne. On sait aussi que cette période de culte se déroulait du 17 au 24 décembre et qu'en hommage à Saturne, on lui a donné le nom de Saturnale. En fait, 4 jours pendant cette période, les Romains célébraient un festin en hommage à ce dieu de la fertilité. Personne ne travaillait, pas même les esclaves, on se rendait visite, on s'offrait des cadeaux. Il convient de rappeler ici qu'à l'époque, le solstice d'hiver était une date très importante pour les économies agricoles et que comme les Romains étaient un peuple d'agriculteurs, tout était fait pour faire plaisir aux dieux et leur demander de réchauffer l'hiver en faisant revenir le soleil ressuscité au début du printemps. Le lien était fait, Saturne étant lié à l'agriculture, on avait vite fait d'associer le culte de ce dieu au culte solaire. Mais à l'époque, il existait bien d'autres cultes solaires, comme par exemple le culte au dieu Apollo, considéré comme le soleil invaincu, ou encore celui du dieu Mithra, littéralement vénéré comme le dieu soleil. En 273, l'empereur Aurélien a même établi le jour de la naissance du soleil comme étant le 25 décembre. Il a appelé ce jour Natalis Solis Invicti, ce qui voulait dire naissance du soleil invincible.
Thank you.
c'était la chanson Mi Morena interprétée en mirandais par le groupe Vitor Jara. Et je rappelle à ceux qui prennent l'émission en cours de route que le mirandais est la deuxième langue parlée dans le nord-est du Portugal après le portugais. Juste avant cette deuxième pause musicale, je vous disais qu'avant d'être Noël, cette fête aujourd'hui chrétienne a autrefois été une célébration païenne en lien avec le solstice d'hiver et le culte solaire. Et nous arrivons inéluctablement à ce lien né dans l'Antiquité avec notre Noël d'aujourd'hui, puisque l'on sait que c'est au IVe siècle que la naissance du Christ a commencé à être célébrée par les chrétiens. Sans oublier bien sûr le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Et de Jésus au Père Noël, il n'y a qu'un pas. Nous en avons d'ailleurs parlé la semaine dernière avec Michel Pinglot. Chez les chrétiens, la fête de Noël s'est en fait cristallisée autour des écrits des apôtres et sur un personnage clé qui n'était autre que Nicolas de Myre, appelé également Saint Nicolas, un évêque d'Asie mineure du IVe siècle, qui apportera ainsi une pierre importante à l'édifice de notre Noël d'aujourd'hui. Et oui, puisque c'est lui qui finalement aura inspiré le Père Noël moderne. En résumé, on peut dire que Noël est une célébration chrétienne largement inspirée des traditions païennes. Je voudrais juste terminer cette première partie en vous disant que les fameuses Saturnales romaines étaient en fait des festivités débridées qui allaient largement survivre à la christianisation de nos contrées et annoncer les carnavals médiévaux. Et c'est là que j'en arrive à la belle région portugaise de Trás-os-Montes, dans l'extrême nord du Portugal, puisque c'est là-bas que l'on trouve encore des endroits les plus authentiques du pays, où les villages reculés ont préservé des traditions millénaires et où le Noël est fêté de façon ancestrale et traditionnelle. Mais je vous dirai plus après avoir écouté un autre groupe traditionnel dans l'esprit de la musique qui se pratique dans le nord-est du Portugal. Je vous propose d'écouter maintenant le groupe Das Carrier qui nous interprète Menino, Menina, vamos a Murta.
Thank you.
C'était Mninava Musa Murta à la Myrte par le groupe traditionnel d'Ascariers, un groupe portugais qui pratique un rock alternatif et néo-folk et qui dans sa musique allie à merveille des instruments comme la cornemuse, la flûte traversière, l'accordéon ou même la guitare électrique, et que j'ai choisi de vous faire entendre ce soir car ce groupe a un style dans l'esprit de là où j'ai envie de vous emmener ce soir à Trazos Montes. L'hiver dans lequel nous sommes entrés hier marque le jour le plus court de l'année et par conséquent également la nuit la plus longue. Mais c'est aussi le signe du renouveau puisqu'à partir d'aujourd'hui, les jours commenceront déjà progressivement à augmenter. C'est comme ça. À l'approche de Noël, c'est l'hiver qui arrive et qui restera exactement 89 jours jusqu'au prochain équinoxe, le printemps. Et où le 20 mars, à 20h45 précise, nous aurons une nuit aussi longue que le jour. Depuis l'Antiquité, on célèbre comme ça le solstice. Aujourd'hui, les références à ce solstice d'hiver ne manquent pas dans la région nord-est du Portugal et plus précisément dans la région de Bragança avec Os Caretos, un défilé de jeunes hommes déguisés qu'on appelle également la fête des garçons. Nous reviendrons tout à l'heure pour vous parler de cette fête des garçons, mais pour l'instant, voyons comment on célèbre Noël à Trazos Montes. Là-bas, on a conservé les traditions païennes de Noël. La nuit du 24 au 25, on fait donc de grands feux qui ont deux finalités. La première, réchauffer les gens qui les entourent, et la seconde, invoquer les morts. Ce sont les feux de Noël que l'on appelle « mouras ». Ce qui veut dire qu'après le dîner de Noël, on se réunit autour de l'immense feu qui prend place sur la plus grande place du village ou le parvis de l'église. Comme je vous le disais tout à l'heure, avec ce feu, à Trazos Montes, on invoque les morts parce qu'on est persuadé que pendant la nuit de Noël, les morts reviennent dans les maisons où ils ont vécu pour vivre cette grande célébration avec les vivants. Et c'est comme ça que la nuit de Noël, les vivants iront donc s'asseoir à table et l'esprit de leurs défunts partagera avec eux le repas de Noël. C'est ce qui explique aussi la raison pour laquelle, après manger, normalement, on ne dessert pas la table. Et non, car il faut permettre aux esprits de s'alimenter toute la nuit. La coutume veut également que l'on laisse une chaise vide pour qu'une âme défunte puisse s'y asseoir. Quelquefois même, durant la conversation du repas, on laisse un temps de réponse au défunt et on va même jusqu'à le montrer du doigt pour lui donner la parole. Dans d'autres contrées, toujours dans cette même région de Trazos Montes, on dit que le diable a toute sa place dans la tradition du soleil, de Noël. Alors on le personnifie en le matérialisant par une figure sinistre que l'on appelle Velho Chucaleiro, que je pourrais traduire par le vieux au grelot. Un homme du village, le plus grand possible, se déguise avec de vieilles fripes frangées en portant un masque sinistre avec un grand nez crochu. Il sort dans les rues du village les nuits du 26 décembre et du 1er janvier. Il saute partout, fait peur aux gens et balance son derrière en demandant l'aumône pour la Vierge Marie et le petit Jésus. Un bien curieux parallèle entre la religion et le diable. En fait, cette tradition ancestrale s'appuierait sur une légende dans laquelle le diable aurait tenté de séduire la Vierge Marie alors qu'elle était prête à donner la vie à Jésus. Et comme le moment était mal choisi, le diable a alors été condamné à demander à vie l'aumône pour elle et son fils.
Os montes ao pé da serra E aprendi desde bem cedo a viver da terra Eu nasci em Trás-os-Montes montes ao pé da serra, ao pé da serra. E aprendi desde bem cedo a viver da terra, a viver da terra. Fiz pão do trigo cegado, aprendi a sentir o vinho nas videiras. E a ser feliz junto ao campo, sonhar acordado sob as oliveiras. Ah, se eu disser que não sinto saudades, eu minto para poder viver. Ah, se eu disser que não sinto saudades, eu minto para poder viver. Eu nasci entre os montes, no arvoredo, no arvoredo. E aprendi a ver a vida sem sentir medo, sem sentir medo. Vivi sem muitos cuidados, corri atrás de gatos, dormi no lameiro. Se hoje um artista me mostra por dentro o que eu gosto é ser um ceifeiro. Ah, se eu disser que não sinto saudades, eu minto para poder viver. Ah, se eu disser que não sinto saudades, eu minto para poder viver. Nasci entre os montes, ao pé da serra, ao pé da serra. E aprendi desde bem cedo a viver da terra, a viver da terra. Eu nasci entre os montes, ao pé da serra, ao pé da serra. E aprendi desde bem cedo a viver da terra, a viver da terra. Trago o coração marcado por este passado entre rios e pontes. Mas quem lá vive eu entendo, quanto dói na gente deixa atrás os montes. Ai, se eu disser que não sinto saudades, eu minto para poder viver. Ai, se eu disser que não sinto saudades, eu minto para poder viver. Ah, se eu disser que não sinto saudades, eu minto para poder viver. Ai, se eu disser que não sinto saudades, eu minto para poder.
C'était Roberto Leal, un chanteur très connu au Portugal. Il a un répertoire très populaire, mais à un moment de sa carrière, il a eu envie de revenir à ses racines, je pense, là où il est né. Il parle de ses souvenirs dans cette chanson, des souvenirs d'enfance, dans cette terre qu'il décrit comme rude et nous raconte les moqueries dont il a eu à faire face à cause de son accent. Juste avant cette pause musicale, je vous parlais d'Uvel Chocalheiro, une figure typique de Trás os Montes, la région au nord-est du Portugal. Une figure déguisée en diable et portant un masque au nez crochu. Eh bien, figurez-vous que des masques de ce genre sont très répandus pendant les périodes de solstice. Dans les hivers de Trás os Montes, on a donc l'habitude de voir dans les rues des masques de toutes sortes, des masques fascinants, terrifiants, voire même repoussants. Une tradition millénaire qui, tous les ans, transforme des garçons et des hommes doux et calmes en diables cornus. Ces masques sont fabriqués par des artisans de la région qui s'y attellent bien avant le début de l'hiver, évidemment. En travaillant le bois, le cuir, le laiton et la laine, on voit apparaître sous leurs mains des masques et des costumes qui auront vite fait de cacher l'identité des garçons déguisés qui, ainsi vêtus, briseront la routine du quotidien. Le déguisement étant bien sûr, bien entendu, la clé de tous ces rituels annonçant un nouveau cycle dans la nature et dans la vie des hommes. En résumé, ces masques symbolisent à la fois le renouveau du printemps, l'arrivée d'une saison féconde et prospère, et le passage de la puberté à l'âge adulte. pour les villages, c'est un moyen de rompre le quotidien, mais surtout le moyen de renforcer les liens entre les villageois. On dit même que tous ces excès servent à purifier les âmes. Ces festivités sont, comme je vous le disais tout à l'heure, l'héritage d'un passé très ancien, puisqu'on retrouve leurs racines dans les fêtes romaines en hommage au dieu Saturne, les fêtes qu'on appelait les Saturnales. Ou encore pendant les Lupercales, des fêtes en l'honneur du dieu Pan, protecteur des bergers et de leurs troupeaux. Ces pratiques festives associées au solstice d'hiver comportaient un cycle de 12 jours, un cycle qui débutait à Noël et se terminait à l'Épiphanie. C'est le deuxième morceau du groupe Brigada Vitorjal et leur chanson « Donde vas ». Nous arrivons maintenant à l'un des personnages les plus importants de la région de Trás-os-Montes. Il s'agit des caretos, des personnages associés au solstice d'hiver. « Les plus connus de ces personnages étant ceux de la ville de Poudens. Leur défilé dans la ville est un véritable feu d'artifice de couleurs, rouge, jaune, vert. On appelle cette fête la fête des garçons et elle a lieu juste après Noël. Un peu comme s'il s'agissait d'un carnaval avant la période du carnaval. Même si les cadets touches les plus célèbres sont ceux de Poudens, il n'en demeure que l'on retrouve certaines figures dans de nombreuses villes et villages, tels que Macé de Cavaleiros, Vinhais, Vinhoso et Lamego, entre autres. Traditionnellement, seuls les hommes célibataires sont habilités à porter ce déguisement. Et il faut bien dire que d'ailleurs qu'ils prennent beaucoup de plaisir à se cacher derrière un masque très caractéristique doté d'un nez pointu et proéminent, fait de bois, de cuir et de laiton et peint en rouge, en jaune ou en noir. Très souvent, le masque est magnifié par d'énormes cornes. En plus de ce masque très caractéristique, les caretos portent un costume tricoloré fait de longues et énormes franges de laine tricolore jaune, rouge et verte. Et pour terminer, on y ajoute d'énormes cloches et grelots à la taille et à l'arrière du costume que les garçons prennent un malin plaisir à faire tintinabuler avec fracas contre les fesses et les hanches des femmes et surtout des filles célibataires. Avec leur énorme bâton de bois, ils parcourent ainsi toutes les rues du village, pénétrant par les portes et les fenêtres des maisons pour dérober les jambons et les saucissons pendus dans les fumoirs des maisons. C'est bien simple, ils ont tous les droits, quoi qu'ils fassent, personne ne peut les réprimander. Ils dansent, ils sentent, ils crient, ils sautent et ils rient au son des cornemuses, des flûtes et des tambours. C'est très étrange à voir. Ces personnages sont un incontournable néanmoins de la culture et du folklore de la région. Leur origine est incertaine, on sait néanmoins qu'elle est millénaire. On pense que ce serait peut-être une sorte de réminiscence d'anciens rituels païens associés à la culture celtique. Les anthropologues y voient quant à eux une sorte de rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ce qui est sûr, c'est que ces personnages sont une sorte de transposition symbolique du côté obscur de l'être humain, un peu comme si la face la plus obscure de l'âme humaine se désinhibait brusquement. Maintenant que l'on sait à quoi ressemblent les caretos, je vous propose d'écouter leur son à travers une musique. Écoutez et tendez bien l'oreille parce qu'en fond, on entend parfaitement leurs cris et leurs grelots. Nous avons donc vu que pendant cette période de Noël, Velchukaleiros et Caretos envahissent les rues des villages de cette région reculée de Trás-os-Montes. Mais il existe un personnage tout aussi fascinant. Il s'agit d'Uvel de Geldrap, qui en mirandais signifie, puisque c'est de là qu'il est originaire, se dit Il Bielo il Dalgadrap. C'est une coutume qui a longtemps été endormie et que quelques passionnés ont ramené à la vie. Et voilà, je crois que vous en savez plus maintenant sur la façon dont on fête Noël dans la région de Trás-os-Montes au Portugal. Sachez néanmoins que le Careto a fait l'objet d'une demande auprès de l'UNESCO pour en faire un bien immatériel du patrimoine universel. un travail de recueil de la part de gens passionnés, tant du côté portugais que du côté espagnol, puisque l'on retrouve ce personnage des deux côtés de la frontière. Une persévérance et une patience qui a fini par payer, car le Querétaro est depuis devenu bien immatériel du patrimoine universel de l'UNESCO. Une richesse unique en Europe qui contribue à faire connaître les traditions luso-galiciennes. Je vous propose de terminer cette chronique en musique avec des morceaux traditionnels. Et pour terminer en feu d'artifice, je vous propose une chanson hyper rock du groupe Chutes e Pontapés et leur titre « De Bragança a Lisboa ».
Mano esquerda, yo do la derecha, rédate atrás, faz-me la reverência. Ai, nono, que me dá la vergonha. Ai, que manda o rei, que manda la justiça. Ai, que manda o rei, que manda la justiça. Essa bailadeira que se caia com la risa, que se caia, que se caia. Ai, nono, que me dá la vergonha. Ai, que manda o rei, que manda o regidor. Vai, que manda o rei, que manda o regidor. Essa bailadeira que baila ao redor, ao redor, ao redor.
Un maximum de musique, un maximum de son.
96.9, c'est Radio Résonance.
Rencontre lusophone, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Jeff, bon week-end à vous tous. On revient évidemment samedi prochain à la même heure, à 18h. En attendant, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une très belle soirée à l'écoute de Radio Résonance. Je vous embrasse.
Eh oui, Rencontre lusophone, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et de nous être fidèles. Rendez-vous ici même, ben, samedi prochain à partir de 18h. N'oubliez pas la rediffusion du dimanche à 15h. Si vous aimez l'émission de ce soir ou si vous souhaitez la réécouter, vous pourrez toujours vous rendre sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de cette émission, Rencontre lusophone au pluriel, pour l'écouter en podcast. Pour l'instant, continuez bien sur les ondes de Radio Résonance. Joyeux Noël ou Feliz Natal à tous! Até mais!